la semaine de la mémoire nous semble, m'a semblé un cadre tout à fait approprié pour évoquer un pan de l'œuvre de Antonia Susan Byatt, romancière britannique, née en 1936. Si la mémoire est le souvenir de quelque chose, comme l'indique tout simplement la définition du petit Robert, de quelle mémoire s'agit-il? Que choisissons-nous de retenir? Sous quelle forme? La mémoire de qui retenons-nous? Après tout, l'histoire n'a-t-elle pas été écrite essentiellement par les hommes? Quelle est la part de fabrication dans la mémoire? Et qu'est-ce qui échappe à la mémoire? Qu'il s'agisse de mémoire individuelle ou de mémoire culturelle, lesquelles sont d'ailleurs souvent liées, toutes ces questions ont animé et animent toujours le roman contemporain, le roman britannique contemporain, et notamment les textes de Byatt dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, quelques remarques sur Antonia Byatt. Je vous ai dit qu'elle était née en 36 dans le Yorkshire. Elle est l'auteur de romans, de nouvelles et de textes critiques. En Grande-Bretagne, on trouve ses romans en librairie sous l'étiquette, parce qu'on range les livres en Grande-Bretagne, donc dans la catégorie « literary fiction », fiction littéraire, ce qui convient tout à fait à cet auteur au centre d'intérêts multiples, qui offre des textes extrêmement riches, denses, tant dans leur style que dans leurs propos. Ces personnages, en général, sont des personnages qui pensent, qui s'interrogent, qui réfléchissent. Qu'ils soient chercheurs, universitaires, enseignants, artistes, ces personnages s'interrogent sur le langage, sur l'écriture, sur les images qui sont utilisées pour représenter l'expérience. En outre, si on consulte une bibliographie de Byatt, on remarque que tout au long de sa carrière, commencée en 64 avec la parution de Shadow of the Sun, alors qu'elle a 30 ans, tout au long de sa carrière, elle a alterné fiction, histoire des idées et critique. Et parfois, elle a mélangé le tout au sein de sa fiction. L'intérêt que porte Byatt à la question de la mémoire est visible dans certains titres d'ouvrages qui ne relèvent pas de la fiction. Elle a publié notamment « On Histories and Stories », qui contient 4 essais qui montrent cette préoccupation pour les liens entre fiction et faits réels, pour les façons d'aborder le passé. À la même époque, en 1998, elle a publié un article intitulé « Memory and the Making of Fiction » et puis elle a co-dirigé un recueil d'articles « Memory » tentant d'aborder la question de la mémoire sous ses aspects philosophiques, psychologiques, scientifiques, etc. Donc si on se penche sur sa production en fiction, on remarque également que ses romans portent rarement sur la période à laquelle ils sont écrits. Elle a publié notamment une tétralogie, une série de romans parus entre 78 et 96. Et en fait, dans cette tétralogie, nous suivons l'évolution d'une héroïne du lycée à l'âge adulte, mais les romans sont tout en décalage avec le moment présent. Le premier, The Virgin in the Garden, est paru en 78, mais évoque le couronnement d'Elisabeth II, vous voyez, donc le début des années 50. Et le dernier, en français, Une femme qui siffle, se situe à la fin des années 60. D'autres romans évoquent un passé plus lointain. Plusieurs romans sont dominés par l'ère victorienne, autrement dit le 19e siècle. Hein, l'ère victorienne, c'est 1837-1901. Et presque tous problématisent la question de la mémoire. Donc Possession, dont je vous parlerai plus en détail, paru en 90, Des anges et des insectes, paru en 92, qui est composé de 2 longues nouvelles intégralement situées à l'ère victorienne, mais aussi Le conte du biographe, paru en 2000, dans lequel le narrateur cherche en vain à dresser la biographie d'un biographe victorien. Le monde édouardien est ressuscité dans un roman plus récent, Le livre des enfants, paru en 2009, donc, qui se situe au tournant du XXe siècle et évoque, entre autres, les aspirations des membres de la Fabian Society, l'engagement des suffragettes, jusqu'à la Première Guerre mondiale. J'ai dit que Byatt avait également publié des nouvelles. Celles-ci sont souvent contemporaines du moment d'écriture, mais certaines revisitent, voire réécrivent le conte de fées, et ce faisant, interroge la mémoire collective, que les contes de fées représentent. En effet, la mémoire évoquée par Byatt est souvent littéraire et ou passe par la littérature, c'est-à-dire que la mémoire évoquée est constituée de textes littéraires que les personnages citent et connaissent, mais aussi que la mémoire personnelle peut être construite par ces textes littéraires. L'intertextualité est donc un trait dominant et assumé dans l'écriture de Briot. Le principe de l'intertextualité, j'ai du mal à le dire, posé par Julia Kristeva, je cite, c'est « Tout texte se construit comme mosaïque de citations. Tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. » La romancière est ainsi marquée par la notion de continuité, par l'enchâssement, le croisement des textes, la notion de transmission des modèles littéraires du passé qui constituent notre mémoire, mais aussi par le questionnement de ces modèles. Le questionnement de ces modèles et la conscience de l'existence de ces modèles qui se traduisent par le recours à des éléments plus expérimentaux. Cette démarche autoréflexive est signalée dans l'extrait que j'ai pris dans Sugar et qui me sert de titre « I select and confess ». Nous nous intéressons ici à deux textes très différents, publiés à 10 années d'écart. D'une part, la nouvelle Sugar, parue dans le premier recueil de nouvelles, et d'autre, donc ça date de 1987, et Possession, paru en 1990. Et pour ce roman, Briot a obtenu le prestigieux Booker Prize, qui lui a apporté une nouvelle notoriété. Le premier texte, Sugar, est un texte assez atypique puisqu'il est autobiographique. Elle est personnelle dans les essais critiques qu'elle écrit, mais c'est personnel sur le plan intellectuel, en fait. Là, on a un texte autobiographique rare. Mais c'est un texte qui est donc atypique par son sujet, mais qui est représentatif du questionnement de Briot sur le sujet de la mémoire. Le second texte s'inscrit, quant à lui, dans une tendance du roman britannique contemporain que je vous présenterai en préalable. Donc tout d'abord, Sugar, ou la mémoire comme tissage. Dans ce récit, Briot dit « je » et évoque le passé familial quand, à l'occasion du décès de son père, elle prend conscience que ce qu'elle sait de ce passé familial provient de sa mère, mais que sa mère n'est pas fiable. Les récits de sa mère ne sont pas fiables. Donc l'un des intérêts du texte repose sur la question de la mise en récit des événements, puis de la transmission de la mémoire. Et la narratrice annonce ceci dès l'incipit, qui pose une contradiction. Je cite, alors j'essaye de citer la traduction de Jean-Louis Chevalier. « Ma mère avait du respect pour la vérité, mais ce n'était pas une femme véridique. » Ce qui apparaît dans le texte, c'est le mélange fait-fiction. La part de fiction dans le récit qui est fait. Et le doute naît de ce désaccord, de l'achoppement entre deux versions du décès du grand-père paternel relaté par la narratrice. Donc, les circonstances du décès de mon grand-père formaient l'une des plus belles histoires de ma mère. Elles en étaient venues à faire partie de mon sentiment incertain de mes origines, une sorte de mélodrame à la Dickens. J'avais une vision de cette scène qui émanait dans une large mesure de romans victoriens et pour une moindre part de mes souvenirs de toute petite fille de la maison de mon grand-père, une maison immense, maussade, sombre, reluisante de propreté et d'un confort lugubre. Les faits sont remplacés par la mise en histoire, le récit qui en est fait. On a best tales, hein, l'une des plus belles histoires. On a le fait que le récit est nourri par des lectures de romans. On a Dickensian, on a le mélodrame, sorte de mélodrame à la Dickens. Et puis, on a cette vision de cette scène qui émanait dans une large mesure des romans victoriens. On relève ici donc l'idée de la mémoire comme résultat d'un entrelac, d'un tissage. On a le récit de la mère mêlé aux lectures de la fille. Le texte continue par une description détaillée de la scène. La narratrice relate la période précédant la mort de son père, au cours de laquelle celui-ci, sachant qu'il va mourir, tente de transmettre une part de son héritage. Il tente de se raconter un peu, mais la narratrice n'est pas dupe de la part de fabrication du récit. Je cite « Il essaya effectivement de construire un conte, un mythe, un récit satisfaisant de sa vie. » Il y a donc réalisation que ce qu'elle sait du passé familial repose sur les récits de sa mère, j'ai pas la traduction, bore no very clear relation to truth or reality. Sa mère est donc l'auteur et la nourricière des histoires familiales qui constituent la mémoire de la narratrice. exemple. Elle s'adresse à son père en disant « As-tu jamais pensé, dis-je, dans quelle mesure ce que nous croyons savoir est fait de ces histoires à elle ? Les grosses erreurs comme celle-là sont récusables, mais il y a tous les petits mythes insignifiants qui se transforment en souvenirs. » On a une réflexion sur la distance entre le fait et la connaissance que l'on en a. La mémoire personnelle ou familiale repose sur des mensonges ou, dans le meilleur des cas, des distorsions, si bien qu'elle n'est pas fiable. Et en plus, elle passe par la mise en récit de la narratrice elle-même. Elle évoque une journée, une visite, et elle dit « Je me rappelle clairement ce jour, possiblement parce qu'à l'époque, j'en fis une rédaction ». Donc on voit bien que l'événement s'inscrit dans la mémoire grâce au récit qui en est fait. Une autre citation où la narratrice se remémore son grand-père. Allons-y. « Je pensais, ou si je ne le pensais pas, je l'ai pensé régulièrement depuis, de sorte que ce sont des idées qui sont liées à ce souvenir, à la fois à Mr. Brocklehurst, le grand pilier noir de Jane Eyre, et à Mr. Murdstone dans David Copperfield. » Donc, on note ici la mention encore de personnages issus de romans victoriens, qui met en exergue l'importance des lectures, des textes précédents qui nourrissent l'expérience et son souvenir. Et puis, on note la reconnaissance, le besoin de souligner le lien entre mémoire et pensée. En anglais, on a « bonded ». L'incise « or if I did not think », ou « si je ne le pensais pas, je l'ai pensé régulièrement depuis ». Cette interruption témoigne du désir d'exactitude de la narratrice, tout comme lorsqu'elle contredit elle-même sa propre mémoire. Elle fait ça également. Quand elle relate la visite de l'usine du grand-père, elle dit « je me souviens du sol comme étant fait de terre battue, mais ça n'est pas possible ». Donc, elle contredit sa propre mémoire, elle contredit son propre souvenir. Elle fait cette visite, elle relate cette visite à la fabrique de bonbons du grand-père et elle assiste à la fabrication de bonbons et elle observe le sucre changeant de couleur quand il se mêle à l'air. La même substance, le sucre, a donc plusieurs apparences et cette transformation est une métaphore de la transformation opérée sur le réel quand ce dernier est transformé en souvenir, quand il est commis à la mémoire. En outre, le bonbon qui est décrit est bicolore. Il est constitué de deux lingots de sucre, comme une métaphore de la mémoire composée de faits et de fictions. On notera également que le type de bonbon décrit s'appelle en anglais « humbug », qui est un mot qui désigne aussi le mensonge, qui désigne aussi l'histoire inventée. Mais ceci évoque aussi la double filiation de la narratrice, qui est renforcée ailleurs quand elle évoque sa mère. Quand elle évoque sa mère, elle dit « Je tiens beaucoup d'elle. Je fais bel et bien carrière dans la fiction. Je sélectionne et confectionne. Qu'est-ce que tout cela, toute cette histoire jusqu'à présent, sinon une sélection soigneuse de choses qui peuvent être dites, de choses qui peuvent être arrangées au grand jour ? À cette fabrication sont amarrées les longues ombres noires des choses qui ne sont pas dites parce que je ne veux pas ou n'ose pas les dire. » ou que je ne me les rappelle pas, ou ne les ai pas comprises, les ai oubliées, ne les ai jamais sues. On notera tout de suite que le « confect », le « confectionne », renvoie au récit de sa mère, au récit de sa mère, à l'assemblage fait par la narratrice en tant qu'écrivain, et aussi à la confiserie du grand-père paternel, avec le mot « confection » qui évoque également la confiserie. Si bien que cette courte phrase, à elle seule, « I select I confect and confect », rappelle le mélange réel et fiction représenté par la mère, mais fait aussi le lien entre les deux familles. Le même paragraphe, ce même paragraphe qui fait état de son propre travail de tissage, issu des propos de sa mère, se conclut par « What is the truth ?» I do have a respect for truth. Ce sont des termes qui font directement écho à ceux employés plus tôt dans le texte, à la fois pour décrire sa mère et pour décrire son père. Donc on voit la double filiation. Si bien que Sugar est une histoire sur l'impossible exactitude du souvenir, mais sans renoncement. À l'occasion de l'enterrement À l'occasion de l'enterrement de son grand-père, elle se remémore son retour de la guerre. Elle se rappelle avoir bondi dans les bras de son père. Je ne me rappelle pas la trajectoire de ce bond. Je me rappelle son début, mais pas sa fin. Pas mon arrivée saine et sauve. Je me rappelle bien, c'est certainement un souvenir et non une allusion ultérieure, une terreur de bonheur. J'avais peur de sentir. Cette scène, je l'avais mise en réserve. Je l'avais déjà vécue 1000 fois, en imagination, en espérance, dans l'avenir inventé. La réalité même, le moment véritable, est aussi inaccessible qu'un point de la trajectoire de ce bond effréné. D'autres choses viennent tandis que j'écris. Les boutons aux ailes d'or de sa veste, oubliés entre autrefois et aujourd'hui. Aucun de ces mots, aucun de ces choses ne l'évoque. La silhouette à la chevelure flamboyante, aux ailes d'or dans l'embrasure de la porte, est un mythe, était un mythe. Et pourtant, il était bien rentré. Il était là, à ce moment précis, et j'avais bien fait ce bond. Une fois que les choses ont eu lieu, quand nous avons repris haleine et regardé autour de nous, nous commençons à savoir ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été, nous commençons à nous les dire à nous-mêmes. En anglais, on a tout un tas d'éléments dans la phrase que la narratrice est sur ses gardes par rapport à son propre souvenir. Elle se défie d'elle-même et de sa mémoire. On a le changement de temps. On passe du présent au passé. On a « I do remember » au début et ça devient « This event was a storied event ». Storied, hein, qui signifie, qui insiste sur le fait que même le moment où le retour du père a lieu, même ce moment-là est empreint de récit. Elle l'a déjà imaginé, elle se l'est déjà raconté avant même qu'il ait lieu. Et on voit aussi dans cet extrait que si l'écriture, la lecture, les mots viennent entre l'événement et l'expérience de cet événement, ils peuvent aussi solliciter le souvenir. Hein. Elle dit, elle parle des boutons oubliés entre autrefois et aujourd'hui. Hein. Ce souvenir arrive par la mise en récit du reste du souvenir. Le texte, le décalage perdure. Hein, on a aucun de ces mots ne. J'ai oublié ce que j'ai dit en français. None of these words, none of these things recall him. Mais le texte ne s'arrête pas là. La narratrice ne renonce pas. Elle continue. Elle continue à raconter, elle continue à essayer de dire. Sugar illustre l'une des préoccupations de la romancière concernant la représentation du réel, hein, ici représentée par le passé qui donne lieu à la mémoire. Sa solution, c'est en anglais « self-conscious realism », une espèce un réalisme autoréflexif qui lui permet de reconnaître, qui lui permet d'allier les deux, en fait, de continuer à dire tout en soulignant qu'elle raconte. Elle reconnaît l'artifice, hein, qui est énoncé dès le début avec dans ce I select and confect, dans la référence à son texte, dans son agencement de souvenirs comme this fabrication. Mais elle continue d'utiliser les mots pour évoquer le monde et elle le fait avec beaucoup de, elle le fait dans la luxuriance, je dirais, hein, parce qu'elle aime les mots et on l'entend. C'est un texte que j'aime bien. C'est un texte qui est intéressant, je pense, parce que si le point de départ est personnel, son propos et sa portée vont bien au-delà de ce cas isolé. Hein. C'est un texte fort, il me semble, parce qu'il s'adresse à chaque individu et l'interroge sur ce qu'il sait du passé, hein, de son passé, comment il le sait, et ce qu'il sera lui-même ou elle-même en mesure de transmettre. Ça renvoie le lecteur à son propre rapport à la mémoire et au langage. Et c'est un des intérêts de la littérature que d'aller au-delà de ses limites. Le deuxième texte dont je voudrais parler, en fait, l'écriture du passé est au cœur du roman britannique contemporain. Actuellement, si bien qu'on parle souvent de renouveau du roman historique au cours du dernier quart du XXe siècle. Récemment encore, ce sont les livres que vous avez, les couvertures que vous avez à l'écran. Hilary Mantel a remporté le Booker Prize à 2 reprises avec des romans historiques. Élodie Rousselot emploie le terme de néo-historique pour cette tendance du roman contemporain qui interroge le passé et nous interroge sur lui. Hein. Au sein de ce renouveau du roman historique, on a une vague néo-historique donc qui questionne le passé. Or, ce type de roman néo-historique est défini, en fait, se définit par rapport à une autre tendance à laquelle Barrett a largement contribué et dont je vais vous parler maintenant, qui est celle du roman néo-victorien. Nombre de romans de la fin du XXe siècle ont en effet offert de nouvelles représentations de l'ère victorienne en s'intéressant à des sujets ou à des personnages non orthodoxes. Je pense par exemple à Sarah Waters qui a commencé sa carrière avec trois romans avec pour héroïne de jeunes filles homosexuelles à l'époque victorienne. Voilà, donc le terme néo-victorien est employé pour ce genre de roman qui questionne. Le terme est employé assez lâchement, je dirais, de façon assez lâche, hein, et ça recouvre diverses interprétations, des romans très divers. Et donc ici, vous avez la définition qui, selon moi, est la plus pertinente et qui correspond le mieux à Barrett, d'ailleurs. Donc ce sont des textes, pris au sens large du terme, qui ont forcément cette dimension de questionnement, hein, self-consciously, et vous voyez le mot reinterpretation, rediscovery, revision, ça dit pas pareil, concerning the Victorian. Donc on a vraiment cette notion de retour conscient vers le passé. On est près, là aussi, de ce qu'on appelle également les métafictions historiographiques de Linda Hutcheon. Ce sont des romans qui jouent sur les limites encore entre le vrai et le fictif. Des romans dans lesquels l'histoire apparaît comme, à la fois comme réelle, elle renvoie à des faits réels, mais on nous fait également comprendre qu'il s'agit d'une construction discursive, en fait. Donc, les romans, les métafictions historiographiques, comme les romans néo-victoriens tels que Possession, sont des textes qui mettent en avant l'artifice de l'écriture, le processus de sélection et d'interprétation qui constitue l'histoire ou la mémoire culturelle. Hein. La mémoire culturelle, c'est-à-dire, c'est une mémoire collective, mais limitée à la culture. Si bien que le passé apparaît comme une construction du présent, une histoire, au même titre que les autres. Alors, ce principe de fabrication de l'histoire admis, il est alors possible, comme l'a fait le roman néo-victorien, de revisiter le passé pour le réécrire, pour révéler ce qui n'a pas été dit, pour s'intéresser, pour donner voix aux oubliés de l'histoire, hein, « the eccentrics », dit Hutcheon. Et le propos de cette... De ce retour, de ce nouveau regard sur l'histoire, de cette réécriture, le propos est correctif. Vous avez ici une citation, alors en anglais, vous voyez l'homophonie en fait entre rewriting pour réécrire et can be read as a rewriting gesture. Rewriting, c'est-à-dire donc pour corriger ce qui a été dit par le passé. Certains textes de Barrett relèvent bien de cet élan révisionniste. Je pourrais citer par exemple un des deux romans des Anges et des Insectes qui est consacré à Emily Tennyson, la sœur de Lord Tennyson, du poète, qui était promise à l'ami de Tennyson, au poète Arthur Hallam, et quand Arthur Hallam est mort quelques mois après les fiançailles, Tennyson a exposé sa peine, il a exprimé sa peine dans un long poème qui s'appelle In Memoriam, mais Emily, il était entendu qu'elle devait rester toute sa vie, la fiancée, et pleurer et se taire. Et en fait, elle s'est mariée. En fait, elle s'est mariée 9 ans après. Elle était rejetée par la famille. Et donc, c'est à ce personnage, le personnage qui n'a jamais parlé, auquel on ne s'est pas intéressé précédemment, c'est à ce personnage que Barrett s'intéresse. Pardon. On retrouve ça dans Possession, dans le roman Possession, quand elle donne voix à des figures considérées comme mineures. Notamment avec Christabel, une poète. Et donc, dans Possession, Barrett s'intéresse à ce qui n'a pas été documenté, ce qui n'est pas entré dans la mémoire. Elle décrit ainsi des personnages féminins toujours réalistes, mais différents des représentations communes. Elle ne nie pas l'aspect répressif de la société victorienne, et elle l'illustre d'ailleurs avec Ellen Ash, hein, qui est un personnage terrorisée par la sexualité au point que son mariage reste non consommé. Donc c'est un exemple. Une relation homosexuelle avec un autre personnage est également suggérée. Bref, ici comme avec Amélie Tennyson, Barrett s'intéresse à the untold story, quelque chose qu'elle a dit en entretien. I think we've had the very wrong image of the sexuality of Victorian women. We all believed that Lydon Strachey, that women had to lie down and think of England. On the whole, the people who told us that were men. Hein, selon on sait, en fait, ça a été rédigé par des hommes. Et elle dit, si on lit les lettres des individus, ce n'est pas du tout, on ne lit pas du tout la même chose. Le retour vers le passé, la remise en question de la mémoire est aussi l'occasion de réévaluer le passé et le présent. Dans Possession, Barrett établit une comparaison qui n'est pas toujours en faveur de l'époque contemporaine, en fait. Elle va à l'encontre des lieux communs selon lesquels l'ère victorienne est la période de l'hypocrisie, la période de la retenue excessive dont le XXe siècle s'est affranchi dans son élan vers le progrès. Ainsi, par exemple, la correspondance des deux héros victoriens que l'on rencontre dans Possession fait montre d'une passion dont sont dépourvus les personnages du XXe siècle, qui, eux, sont empêtrés dans des théories qui les empêchent de ressentir pleinement leurs émotions. Autre exemple, Barrett ne nie pas que les personnages victoriens féminins ont des existences limitées et contraintes, mais elle suggère que les personnages féminins du XXe siècle subissent des frustrations similaires. Dans Possession, on a deux trames narratives, une au XXe, une au XIXe, et tous les chapitres sont précédés d'épigraphes. Et en épigraphe, on a les poèmes inventés par Barrett et attribués aux personnages victoriens. Et donc, on a ce poème attribué à Lamotte qui souligne l'étroitesse du domaine réservé aux femmes. Je vous le lis, c'est très court. « Nous pouvons subir le martyre n'importe où, le désert, la cathédrale, la place publique, et nulle action précipitée, tel est notre destin, traîner une longue vie dans une chambre sombre. » Donc, on a ce poème qui souligne, donc je l'ai dit, l'étroitesse du domaine réservé aux femmes, mais ce poème est placé en épigraphe à un chapitre qui décrit un personnage, Beatrice Nest, qui au début des années 40 est découragé, que l'on décourage de consacrer une thèse à la poésie amoureuse de H, du personnage victorien, mais plutôt de se consacrer à l'édition du journal de sa femme. D'accord ? Donc, le poème fait écho à la situation réduite à laquelle est confronté le personnage contemporain. On a un autre exemple également situé plus tard, dans les années 80, dans les années 1980, quand un personnage féminin voit son travail de recherche attribué à son compagnon, parce qu'il travaille sur le même auteur, et on suppose, on ne dit rien, mais on suppose qu'en fait c'est lui qui a fait le travail. Donc on a un personnage, l'héroïne au XXe siècle, qui a acquis indépendance et autonomie. Mais cette autonomie et cette indépendance sont fragiles, et le personnage, en fait, dit ressentir la même chose que Christabel, donc la poétesse, un siècle plus tôt. Alors elle dit, je cite le texte en français, donc je me sens comme elle, donc elle, Christabel, un siècle plus tôt. Je me tiens sur mes gardes parce qu'il faut que je continue, que j'accomplisse mon œuvre. Je sais ce qu'elle ressentait quand elle parlait de son œuf intact, sa possession d'elle-même, son autonomie. Je ne veux pas penser que cela puisse disparaître. Vous voyez, donc on a vraiment on a un écho très net ici. Donc plutôt que linéaire, l'histoire paraît cyclique, avec des échos du passé dans le présent. Donc je vais continuer avec Possession plus particulièrement, qui est un roman dans lequel La mémoire dont il est question est culturelle, d'accord ? Il s'agit d'une mémoire qui a fait l'objet d'un travail, d'une organisation. Et le roman évoque, montre la sélection de faits que l'on choisit de garder en mémoire pour constituer l'histoire littéraire. Donc je vous ai dit rapidement tout à l'heure, on a deux niveaux. L'intrigue commence en 1985 avec des personnages qui consacrent leur vie à des poètes victoriens. D'accord, des poètes inventés par Byatt, même s'ils sont calqués, en fait, inspirés, je devrais dire, sur des personnages réels. Ash est inspiré de Robert Browning et Christabel est un composite de Christina Rossetti et Emily Dickinson. Donc au début, on a ce personnage du 20e, Roland Mitchell, assistant-chercheur, spécialiste de Ash, qui découvre des brouillons de lettres au ton inhabituel, qui le pousse à reconsidérer l'objet de ses études. Donc, poussé par la curiosité, le personnage cherche à identifier la destinataire des brouillons de lettres. Il rencontre ainsi Maud, spécialiste de Christabel Lamotte, poétesse victorienne, considérée comme mineure et qui n'intéresse que les féministes. Grâce à un poème de Christabel, les chercheurs découvrent la correspondance des poètes qui jette une toute autre lumière à la fois sur l'histoire littéraire et sur les poèmes. Le roman relate la quête des chercheurs contemporains pour reconstituer l'histoire d'Ash et Lamotte à la relecture de leurs poèmes qui recèlent en fait leur mémoire. Ce faisant, d'autres chercheurs entrent dans l'enquête, offrant différentes lectures, différentes versions du passé, différents récits pour la mémoire. Donc on a deux trames narratives apparemment distinctes, situées à deux époques différentes, mais on observe assez vite une relation de causalité qui montre que les personnages du 20e, Roland et Maud, sont en fait dépendants des victoriens pour leur histoire et leurs identités respectives. Byatt a déclaré très clairement que Possession porte sur le ventriloquisme, en fait, hein, sur la présence de ces textes littéraires comme voix de fantômes et d'esprits qui ne partent pas. Les textes littéraires sont des voix qui constituent la mémoire. Byatt a une conscience aiguë du caractère intertextuel propre à l'écriture, mais elle met en avant le phénomène et elle l'exploite. Et l'intertextualité est si importante chez elle, est doublement liée à la question de la mémoire, car tout d'abord, l'intertextualité n'est autre que le dialogue avec des textes qui constituent la mémoire culturelle, et deuxièmement, la mémoire est entretenue par le rappel intertextuel. Dans Possession, les personnages principaux portent des noms, qui invoquent la mémoire. Maud a la beauté de l'héroïne du poème éponyme de Tennyson, qui est citée d'ailleurs à deux reprises. Elle est décrite comme uniformément glaciale et splendidement vide, et ce sont les mots de Tennyson. Le héros ou anti-héros, Roland, a néanmoins le prénom d'un apprenti chevalier dans un poème de Robert Browning. Christabel, la poétesse victorienne, est entourée du même mystère que la Christabel du poème de Coleridge. Christabel, donc, ça nous renvoie également, là on sort du domaine littéraire, mais ça nous renvoie également à la suffragette Christabel Pankhurst. Parce que Byatt dote son personnage d'un fort esprit critique de la condition féminine. On l'a vu avec le poème cité plus haut. En outre, les personnages victoriens eux-mêmes s'associent à des figures littéraires du passé pour se définir. Possession est un roman à la construction relativement complexe, parce qu'il donne à voir l'élaboration de la mémoire en récit. Les chapitres se déroulant au 20e sont émaillés d'extraits de poèmes d'Ash, de poèmes ou des contes de Christabel, d'extraits de journaux d'autres personnages. On a également la correspondance entre les deux poètes victoriens qui, elle, fait l'objet d'un chapitre à part. On a un chapitre consacré entièrement à la correspondance entre les deux poètes que le lecteur ne découvre pas dans le même ordre en fait que les personnages. Et ça c'est important parce qu'en fait au début le lecteur est invité à suivre la démarche des personnages et puis il s'en détache, notamment avec cette correspondance qui lui est livrée différemment. Et ensuite, parce qu'on a quelques chapitres omniscients qui proposent une entrée directe au XIXe siècle, sans filtre, si vous voulez. Donc, ce qui devient la mémoire culturelle et est donc officialisé repose sur l'interprétation des sources primaires. Et Barrett accentue encore ce problème de l'accès à la réalité du passé en montrant que les sources elles-mêmes peuvent être des fabrications, des constructions. Je vous ai dit qu'il y avait le roman comportait des journaux attribués à des personnages. Donc, les journaux intimes sont considérés comme des documents authentiques. Or, là, on nous montre que le journal de la femme de H, par exemple, est rédigé dans le but de dissimuler l'intimité du couple. On a une variété des voix du passé, mais à cette variété des voix du passé s'ajoute une multitude de discours imposés sur le passé. Donc, les voix de H et Lameute, qui relatent à mots couverts leurs relations dans leurs poèmes, leurs voix sont étouffées par ce que l'on dit d'eux, lorsque se fait la mise en histoire des faits, lorsque le passé est figé, transformé en mémoire. Barrett parodie ainsi le discours féministe, le discours psychanalytique, biographique, etc. En fait, seuls les héros savent entendre les voix des poètes dans des textes qui sont porteurs de leur propre mémoire. Maud en est par exemple récompensée, et j'utilise le terme exprès, quand elle se laisse guider par un poème de Christabel sur les poupées pour trouver la correspondance, d'accord ? Elle trouve la correspondance parce qu'elle a écouté, parce qu'elle a lu, parce qu'elle était attentive au poète. De même, l'attachement de Roland aux mots du poète lui donne accès à une dimension que les autres n'ont pas et lui donne finalement également les moyens d'écrire lui-même, de devenir poète. Possession peut ainsi se lire comme un roman sur la construction de la mémoire, avec ses personnages universitaires qui établissent des lectures, qui s'interrogent sur des représentations et en proposent d'autres, sur les auteurs victoriens. Avec ces représentations, la subjectivité du passé est soulignée, la subjectivité de ce que nous mettons et transmettons sous l'étiquette mémoire. Possession montre que l'image véhiculée d'H et Lameute est fausse et que la mémoire culturelle qu'il représente dans le monde de la diégèse est corrigée par les découvertes et nouvelles lectures qui sont faites. Mais le roman montre aussi que le tableau final est incomplet. En effet, si le lecteur est invité d'abord à s'identifier au héros, il est ensuite confronté directement aux mots des poètes. Je vous ai dit qu'à trois reprises, le narrateur omniscient offre une entrée directe au XIXe siècle, hein, sans passer par le filtre du XXe. Ces trois passages sont les plus romanesques, en fait, hein, les plus romanesques car ils sont prétendument transparents. Mais le paradoxe, c'est qu'ils en disent plus que les autres, révélant au lecteur des faits qui resteront ignorés des personnages. Donc, Barrett montre les différentes étapes du processus de fabrication de la mémoire dans Possession pour finalement privilégier le point de vue du romancier. Le roman s'achève avec un postscript qui relate une rencontre entre des personnages, une rencontre qui n'a pas été consignée et n'a donc pas été transmise. Le postscript évoque l'oubli, qui est le contrepoint de la mémoire. Les chercheurs n'obtiennent jamais le portrait complet des poètes. Les chercheurs sont limités par les textes dont ils disposent. Tandis qu'ils pensent avoir, et qu'ils ont dans une certaine mesure, rétabli la vérité sur H et Lameute, qu'ils sont arrivés à une nouvelle lecture des poèmes, une part leur échappe néanmoins. Une part qui est celle qui revient au romancier, qui revient au storyteller, qui lui ou elle, et lui ou elle seule, peut supplémenter, peut raconter ce que la mémoire ne dit pas. En conclusion, je dirais que Sugar et Possession montrent tous les deux, chacun à leur manière, mais montrent tous les deux, que la mémoire influence le présent, mais aussi que la mémoire est l'œuvre du présent. Barrett a elle-même conscience de participer par son écriture, sinon à la construction, du moins à l'entretien de la mémoire. Notamment quand elle cite à la toute fin de Possession pour décrire une atmosphère, une longue liste de fleurs, et elle dit les avoir employées juste pour les sauver de l'oubli. Voilà, merci.